Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Il veut tracer de nouvelles lignes rouges pour lutter contre la haine anti-juive. Emmanuel Macron a annoncé hier une série de mesures plus ou moins attendues. Il était au dîner annuel du CRIF, aux côtés notamment du président du Conseil. Lui parle d'une responsabilité chez les Gilets jaunes, vous l'entendrez. Nous ferons le point aussi sur la réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux ne sont pas d'accord et ils abandonnent les négociations en l'état. Le gouvernement reprend donc le dossier. À la une ce matin également, ce sommet au Vatican sur les abus sexuels dans l'Église catholique, c'est une première. Et puis les 20 millions d'euros que va devoir payer tous les ans jusqu'en 2039 l'Agence européenne du médicament. Cela correspond à son ancien loyer londonien. Le bail ne peut pas être annulé. Nous commençons donc par les promesses d'Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme. Lors du dîner du CRIF hier soir à Paris, le chef de l'État a déploré une résurgence de l'antisémitisme, sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale selon lui. Et il a annoncé une proposition de loi contre la haine sur Internet. Elle sera déposée en mai prochain et portée par la députée La République En Marche, Laetitia Avia. Une révision aussi de la définition de l'antisémitisme pourrait intégrer l'antisionisme. Et puis, il a annoncé que la dissolution de 3 associations d'extrême droite serait faite, dont Bastion Social. Un peu plus tôt lors de la soirée, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa, avait dénoncé cette montée de l'antisémitisme en France et fustigé surtout les dérapages de certains gilets jaunes. Écoutez.
Au commencement, il y avait la colère et des revendications légitimes sur le pouvoir d'achat. Très vite, sont venus s'ajouter un climat insurrectionnel et des scènes de chaos. Certains ont fait le choix de la violence, des menaces et de la haine. Ils attaquent des élus, des journalistes, des policiers, des juifs et tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Samedi dernier, sous les caméras et à visage découvert, un homme vocifère sa haine des juifs en traitant Alain Finkielkraut de sale sioniste. Je suis consterné, consterné par leur besoin d'un bouc émissaire dont l'élimination résoudrait par miracle tous les problèmes. Monsieur le Président de la République, je suis horrifié, horrifié par leur simulacre de guillotine et de gibet, mais aussi par la conviction profondément ancrée en eux que vous êtes une marionnette et que ce sont les Juifs, encore les Juifs et toujours les Juifs, qui tirent les ficelles. Plusieurs propos, graffitis ou pancartes semblent tout droit sortis des poubelles de l'histoire. Leurs auteurs n'expriment pas une opinion. Ils commettent un délit. Ils doivent être poursuivis et sévèrement sanctionnés. L'antisémitisme se portait très bien en France avant les Gilets jaunes. Il se porte encore mieux grâce à certains d'entre eux.
Des propos du président du CRIF recueillis hier soir par Antoine Maret. Sa garde à vue est prolongée à Mulhouse. L'homme soupçonné d'avoir proféré des injures antisémites à l'encontre de l'académicien Alain Finkielkraut. Il évoluerait dans les milieux musulmans radicalisés. La précision vient de la ministre de la Justice. Après 3 mois et demi de négociations, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier sur la réforme de l'assurance chômage voulue par l'exécutif. C'est donc le gouvernement qui, comme il l'avait prévenu, va reprendre la main sur le dossier. Que va-t-il, que peut-il se passer maintenant, Catherine Pétillon?
Première question, celle de la méthode. C'est désormais le gouvernement qui a la main. Il peut donc décider seul des futures règles de l'assurance chômage. Syndicats et patronats vont néanmoins essayer de peser et d'obtenir des réunions tripartites afin de poursuivre les discussions avec l'exécutif. Ce dernier peut y avoir un intérêt, mais il n'aurait pas non plus de raison de se priver de la possibilité de mener la réforme comme il l'entend, voire d'aller plus loin que le cadre qu'il avait fixé aux partenaires sociaux. Ce qui inquiète le plus les syndicats, ce sont les économies annoncées. L'objectif est de 1,3 milliard d'économies annuelles sur 3 ans. Et parmi les pistes les plus avancées pour y arriver, il y a le durcissement des conditions d'ouverture des droits au chômage et le cumul entre allocation et emploi. Cela reviendrait à faire des économies sur le dos des chômeurs, dénoncent les syndicats. La principale inconnue, c'est l'avenir du bonus-malus, ce dispositif pour réguler le recours au contrat court sur lequel a buté la négociation. L'exécutif l'imposera-t-il aux entreprises? C'était la promesse d'Emmanuel Macron, mais le sujet est loin de faire l'unanimité entre le ministère du Travail, Matignon et l'Élysée. Les discussions sont donc loin d'être finies.
Nous en venons à ce procès qui débute ce matin au tribunal de police de Versailles. Procès déclenché par des images de l'association L214. Elle montre des actes de maltraitance animale commis dans l'abattoir de Houdan dans les Yvelines. On y voit des cochons se faire piquer par des aiguillons électriques notamment. Sur le banc des prévenus ce jeudi donc, le directeur de l'abattoir, trois de ses salariés ainsi qu'un agent vétérinaire. La justice a notamment retenu de mauvais traitements sur animaux comme motif. C'est trop faible pour l'association de défense animale Roméo Van Maastricht.
L214 souhaitait que les faits soient requalifiés en actes de cruauté, un motif plus grave. Aujourd'hui, au tribunal de police, les cinq prévenus encourent des contraventions maximales de 750 euros. C'est une déception pour l'association. Mauvais traitement ou cruauté, c'est bien là le nœud du problème. Seule l'intention de faire souffrir peut justifier juridiquement la notion de cruauté. L214 l'affirme, ces images prouvent la volonté de faire du mal. Ce à quoi la défense du directeur de l'abattoir répond, ce n'est pas parce que L214 veut l'abolition de la viande qu'il faut considérer l'abattage comme un acte délibéré de faire souffrir l'animal. De son côté, l'association antispéciste considère comme une victoire l'examen de cette affaire par un tribunal. C'est la troisième fois que les vidéos de L214 donnent lieu à un procès, après ceux du Vigan dans le Gard et de Mauléon dans les Pyrénées-Atlantiques. La plupart de leurs plaintes contre ces établissements sont classées sans suite. Le procès de Versailles aujourd'hui a des allures de revanche pour L214. Dans ce dossier, en octobre dernier, deux de ses militants avaient écopé de 6 000 euros d'amende, dont 5 000 avec sursis pour violation de domicile. Ils avaient été interpellés tandis qu'ils venaient changer les cartes mémoire des caméras cachées dans l'abattoir.
C'était Roméo Van Maastricht pour France Culture. Le sommet est déjà historique. Au Vatican, les 115 présidents de conférences épiscopales du monde se rassemblent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Ils doivent évoquer la protection des mineurs. Il s'agit bien sûr pour l'Église catholique d'apporter des réponses aux crimes pédophiles commis au sein de l'institution. Pourquoi cette omerta depuis tant d'années ? Pour se protéger, évidemment, voilà ce que répond Catherine Deroche, sénatrice Les Républicains, présidente aussi de la commission d'information sénatoriale sur les infractions sexuelles sur mineurs.
Ça a été, je pense, une volonté de protéger l'institution, de régler les choses au sein de l'Église et surtout en ne prenant pas du tout en compte la douleur des victimes. Il faut entendre les victimes pour voir quels sont les dégâts de ces abus sexuels sur les personnalités et même les complications physiques ou de pathologies ultérieures. Ça a été cette volonté de protéger plus l'institution en ne en tenant pas en compte des victimes et parfois en faisant en sorte que les coupables d'agression soient simplement déplacés mais ne soient pas punis. Or, c'est de la pédocriminalité, ils doivent subir les lois des États dans lesquels ils sont et la loi d'Église ne peut prévaloir sur la loi de la République en France.
La sénatrice Catherine Deroche avec Stanislas Vazak. Donald Trump met la pression sur l'Europe en la menaçant de nouveau de taxes douanières supplémentaires sur les importations de voitures. Ce sera le cas, dit le président américain, si les négociations entre Washington et Bruxelles ne débouchent pas sur un nouvel accord commercial. Et il n'y a pas d'accord en vue, toujours entre Bruxelles et Londres. Hier soir, le ministre britannique de l'Intérieur confiait même que le risque de Brexit sans accord s'était accentué. Un Brexit qui pourrait coûter cher à l'Agence européenne du médicament. Jusque-là basée à Londres, elle a décidé de déménager vers Amsterdam en vue d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais cette agence doit continuer de payer le bail de ses anciens locaux à la City à Londres. La Haute Cour de justice refuse d'annuler le texte Antoine Gignot.
Impossible d'annuler. Les locaux sont réservés jusqu'en 2039. Il faudra donc payer jusqu'au bout, explique le juge. Il refuse de considérer le Brexit comme un événement inattendu, susceptible d'entraîner une modification du contrat. Conséquence, l'Agence européenne du médicament va devoir payer un loyer de 13,5 millions d'euros par an pour ses nouveaux bureaux situés à Amsterdam, tout en continuant à envoyer pendant les 20 prochaines années un chèque de près de 20 millions d'euros au groupe londonien Canary Wharf, propriétaire des immeubles de la City et détenu en partie par le fonds souverain du Qatar. Une vraie punition pour l'Union européenne, titre les tabloïds comme le Daily Express, et le juge n'est pas loin de tenir le même discours. Il aurait fallu penser à tout cela avant de déménager, dit-il. La sortie de l'Union européenne aurait dû être anticipée, la nécessité de régler la facture aurait pu être évoquée lors des négociations. C'est aussi une façon de lancer un avertissement à toutes les compagnies qui voudraient quitter la capitale britannique dans les mois. mois qui viennent en tentant de renégocier leur contrat. La bataille juridique, pour autant, n'est peut-être pas tout à fait terminée. L'Agence européenne du médicament examine les recours possibles et cherche également une solution pour sous-louer ces locaux.
Nous revenons en France avec des grisailles matinales assez tenaces ce matin sur le nord-ouest du pays. Mais l'après-midi s'annonce encore ensoleillé et doux, avec 6 à 7 degrés en moyenne au nord de la Loire ce matin, 9 à 12 au sud.